Nous allons revenir maintenant sur les conséquences judiciaires, bien sûr, et politiques de l'affaire du meurtre de Liana. Son meurtrier présumé est toujours en détention provisoire, mais maintenant l'onde de choc, elle est politique, avec des appels à manifester ce soir pour dire plus jamais ça. Nous allons justement voir comment ça se passe devant les palais de justice de Lyon, de Nancy, de Nice. Nous serons aussi du côté d'Auch, dans le Gers. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est au-delà de l'émotion, c'est que maintenant, il y a une envie de faire bouger les choses. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, ce matin, lorsqu'il a reçu les procureurs. Il s'interroge, y aura-t-il d'autres affaires Liana en France ? Et il appelle les procureurs à accélérer l'examen des dossiers. 70 000 dossiers en souffrance, mais pas question pour Gérald Darmanin de démissionner non plus. On écoute le garde des Sceaux.
Y a-t-il d'autres affaires Liana en France ? C'est la question qu'on peut légitimement tous se poser et que je demande aux procureurs généraux, aux procureurs de se poser. C'est, je crois, le rôle du ministre de la Justice, lorsque ça ne va pas, de commander une inspection. J'attendrai le résultat de cette inspection dans 15 jours, qui concerne évidemment aussi la gendarmerie nationale et l'éducation nationale, pour éventuellement communiquer devant vous sur les sanctions éventuelles que je prendrai dans ce que nous pouvons considérer comme étant un terrible échec de l'action de l'État en général et de la justice, bien évidemment.
Il y avait un appel à manifester devant le ministère de la Justice, justement, aujourd'hui, place Vendôme, en plein centre de Paris. Nous allons y retrouver Mélanie Bertrand en direct pour BFM TV avec une invitée. Or, la préfecture a interdit ce rassemblement, finalement, Mélanie.
Oui, exactement. L'arrêté de la préfecture de police de Paris est tombé il y a 2 heures en raison du risque de troubles à l'ordre public ici, place Vendôme. Les policiers demandent finalement à ce que le rassemblement soit décalé, soit déplacé un petit peu plus loin dans Paris, place Louis Lépine devant l'ancien palais de justice, devant la cour d'appel. Nous sommes avec Iris Hannet. Vous êtes responsable pédagogique de l'association Face à l'inceste et ancienne rapporteuse de la Civise. Pour comment vous prenez cette interdiction et est-ce que vous allez rester ici coûte que coûte?
Nous la prenons comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une violence supplémentaire. Comme la désignation du deuil d'un peuple face à la mort d'une enfant comme un trouble à l'ordre public, les mots ont un sens, les mots sont forts, les mots sont violents. Nous sommes venus ici parce que nous voulions voir si le ministre de la Justice allait tenir ses promesses. Il s'était dit choqué, il s'était dit bouleversé, il s'était dit, il avait présenté ses excuses. Et encore une fois, rien ne suit les paroles. Elles ne sont pas suivies d'actes. Nous irons finalement en place Lépine parce que nous ne voulions pas laisser seuls les Françaises et les Français qui ont choisi, qui ont besoin de se réunir pour penser un instant, pour faire une minute de silence à la mort de Liana.
C'était ça le sens de ce rassemblement. C'est le sens de ce rassemblement, donner de la parole aux victimes des violences sexuelles, avoir aussi une minute de silence, je crois, pour Liana et pour toutes les victimes.
C'était pour donner un espace de recueillement pour un peuple endeuillé, un peuple qui a besoin de se reconnaître, de se sentir ensemble, de se sentir unis. Et il l'a été jusqu'ici et nous sommes infiniment reconnaissants de cette mobilisation collective. Malheureusement, les pouvoirs publics ne sont pas à la hauteur des Français et des Françaises.
Un mot sur les annonces ce matin de Gérald Darmanin qui a reçu ici même devant le ministère, au ministère de la Justice, tous les procureurs généraux. Il a demandé notamment à ce qu'il y ait un passage en revue, un petit peu en urgence, des 70 000 plaintes en souffrance pour les enfants victimes de violences sexuelles. Est-ce que c'est une bonne idée, une première solution ?
Mais le délai accordé et la demande sont déjà révélateurs. Comment voulez-vous repasser en revue 70 000 plaintes en même pas un mois ? Ça ne peut être que bâclé. Et finalement, Gérald Darmanin demande à ses procureurs de bâcler, encore une fois, ces dossiers de violences sexuelles sur mineurs.
Merci beaucoup. Et on entend au micro, peut-être vous avez entendu derrière nous, les appels de la police à se déplacer. Place Louis Lépine, on verra si les consignes sont entendues ici.
Merci Mélanie Bertrand et Victor Lerenard en direct du ministère de la Justice pour BFM TV.
Maître Boussardeau, bonsoir. Vous êtes avocate, ancienne vice-bâtonnière de Paris, présidente de l'association bâtonnière du Monde. 70 000 plaintes à revoir d'ici le 14 juillet, des plaintes impliquant des enfants, c'est faisable ?
C'est un délai extrêmement court, c'est certain. C'est une réponse politique qui est donnée à ce qui clairement constitue un séisme.
Mais le terme de séisme, vous l'utilisez, séisme judiciaire ?
Oui, je considère que il y a un vrai effet blast à ce drame. Les professionnels du droit que nous sommes, les avocats, nous sommes habitués à ces temps, à ces délais extrêmement longs. La situation ici et dramatique, parce qu'on est au paroxysme, d'une certaine manière, de ces délais. Mais notre quotidien, ça a été beaucoup dit, mais je le répète, parce que c'est une réalité, notre quotidien est vraiment occupé à relancer face à des justiciables, à l'égard desquels nous sommes presque un tampon entre la justice et les justiciables qui viennent nous voir pour nous confier ce qu'ils ont de plus difficile, de plus intime. Je parle évidemment des violences sur les enfants, je pense aussi aux violences sur les femmes, les violences sexuelles et sexistes. Évidemment, lorsque un justiciable franchit la porte d'un cabinet d'avocats, c'est avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'attente, parce que pour pouvoir déposer cette lourdeur, cette réalité, il faut quand même beaucoup de courage.
Mais franchement, est-ce que la justice peut aller plus vite ou pas ? On va écouter Marine Le Pen qui vient de sortir des locaux du Rassemblement National et qui réagit.
Ces gens ne seront plus là dans un an.
Mais vous ne regrettez pas qu'ils ne démissionnent pas aujourd'hui ?
Voilà, donc on a entendu Marine Le Pen. Pour elle, l'élection présidentielle sera l'occasion, on l'a bien compris à ce moment-là, de faire le ménage. Ces gens-là, dit-elle, ne seront plus là dans un an. Je reviens à ma question. Est-ce que franchement la justice peut aller plus vite en l'état ou pas ?
La justice doit pouvoir aller
Est-ce qu'elle
plus
le
vite.
Peut
J'allais venir à la nuance. Elle doit aller plus vite, à l'évidence, puisque ces dossiers intrinsèquement relèvent de l'urgence. Mais il y a aussi une réalité de terrain, et cette réalité, c'est celle du nombre d'enquêteurs, c'est celle du nombre de magistrats. Bien sûr
Donc
que...
Donc elle doit, mais elle ne peut pas.
Il n'y a pas assez de moyens.
Non, il n'y a pas assez de moyens. C'est aussi une question de moyens. C'est clairement une question de moyens. Ce matin encore, nous passons, nous, avocats, des heures à appeler les commissariats. Et les réponses qui nous sont souvent données, c'est « Mais maître, nous en sommes à peine aux plaintes de 2024. » Donc non, le dossier
2024.
N'est pas... 2024. Mais très souvent. Vous avez les affaires de nature sexuelle, vous avez les autres affaires, mais sachez que le quotidien des professionnels de justice, c'est de relancer.
Pardon, mais quand on reçoit une plainte en août 2025 d'une maman qui porte plainte pour viol sur sa fille, sur mineur, on s'interroge quand même. Certes, il n'y a peut-être pas assez de moyens au parquet de Toulouse, mais pourquoi il ne se passe pas grand-chose ? Alors déjà, il y a un problème de savoir qui va se charger de l'enquête. Est-ce que c'est le parquet de Toulouse, celui du Gers ? Bon, on perd du temps. Là, on envoie un courrier, on n'envoie pas de mail. Donc ça, ce n'est pas une question de moyens, c'est des questions de procédure, de lourdeur administrative.
Vous avez raison, il y a évidemment la lourdeur administrative, et ça paraît totalement contre-intuitif de se dire que les procédures sont en 2026 transmises par voie postale, bien évidemment. Mais la question territoriale, c'est une question qui se pose très fréquemment. Vous avez une procédure qui est déposée, par exemple, à Nanterre, et puis finalement, 6 mois après, vous appelez, vous relancez, mais la procédure est partie parce que le mise en cause a déménagé et que la compétence territoriale a également...
Oui, mais ça peut se régler, c'est pas une question de moyens. On peut décider que la compétence soit au parquet qui a saisi la plainte sans se poser de questions.
Mais c'est la loi.
Oui, c'est la loi, il faut changer la loi.
Ce sont nos textes, les compétences territoriales relèvent de notre code de procédure pénale. Donc,
il y a peut-être des procédures à alléger.
Donc, il y a très certainement, il y a tout, à l'évidence, c'est plus que perfectible. Mais je crois que la question des moyens est au cœur, malgré tout, et, j'en terminerai peut-être là-dessus, des moyens et de l'organisation. C'est-à-dire que structurellement, il y a un vrai enjeu de coordination de ces dossiers, parce qu'il n'est pas acceptable de se dire que dans telle région, dans tel département, dans telle ville, la plainte va être traitée, et puis dans telle autre, elle ne va pas l'être. Dans tel département, des actes minimums d'enquête vont être réalisés, et puis les mêmes faits donnent lieu, par exemple, à un classement sans suite. Ça, c'est une réalité. Et il y a cette aléa aussi géographique, aussi territoriale, qui pose problème.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on procède encore par fax, par courrier postal, au sein de la justice, à l'heure des smartphones et
du numérique.
De moins en moins, voire plus. Mais il y a encore très peu de temps, d'années. Allez, disons, il y a 2-3 ans, vous pouviez encore avoir des fax. Aujourd'hui, on a quand même des systèmes dématérialisés au quotidien.
D'accord. Bruno Ketel, ancien député, aujourd'hui avocat, vous étiez venu témoigner de ce qui vous est arrivé à l'âge de 11 ans. Vous avez été violé et vous nous racontiez à l'époque qu'il ne se passe pas une journée sans que tout vous ramène à un moment donné à ce que vous avez subi à l'âge de 11 ans. Comment vous avez réagi en apprenant la mort de Liana et tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a appris autour de cette mort.
Ces faits dramatiques, à chaque fois qu'ils se produisent, vous renvoient à votre propre histoire et vous replongent dedans, c'est inéluctable. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que je crois qu'on est vraiment à la charnière. Les pouvoirs publics peuvent, s'ils s'en donnent les moyens, faire qu'il y ait un avant et après ce drame. Et je crois que la société dans son ensemble fasse, attend qu'il soit fait, pardon, que les moyens, effectivement, même s'il a été fait en matière d'augmentation de budget, mais ça ne suffit pas, doivent être encore déployés et qu'il ait des questions de procédure à revoir. Il est des questions aussi d'ordonnancement du parquet. Il existe un parquet national antiterroriste. Il existe un parquet national financier qui avait été créé après une affaire éminemment médiatique. Il faut là que les pouvoirs publics, que l'État donne le signal à la société dans son ensemble qu'il prend à bras le corps ce sujet.
Et moi, j'entends beaucoup d'associations dire « Mais finalement, la protection des enfants, ce n'est pas une priorité. » Parce que les enfants, ça ne manifeste pas, ça ne vote pas. La parole de l'enfant est fragile, est difficile à recevoir.
Vous savez, moi, il a fallu que j'arrive à mes 60 ans pour prendre des dossiers de cet ordre. Et j'ai des dossiers de cet ordre, je défends des enfants et des parents. Et j'ai eu beaucoup de mal dans la journée à leur expliquer comment on ferait pour traiter 70 000 dossiers en quelques semaines, alors que leur propre dossier subit les langueurs de la justice. Très compliqué à justifier. Et ces familles concernées qui portent leurs enfants au quotidien, qui accompagnent leurs enfants. Moi, j'ai vu un enfant exclu de son école au lendemain du dépôt de la plainte contre un intervenant de l'école par le directeur de l'école.
Dehors. Pardon, l'enfant a...
Dehors.
C'est plein quoi, d'agression sexuelle ?
De viol.
De viol ?
De viol. Il a été entendu par la police. Le lendemain, le directeur était devant la porte. Il a dit aux parents... On ne veut plus votre enfant, vous devez trouver un autre établissement.
Donc là, pardon, mais ce n'est pas une question de moyens, c'est bien une question de prise en compte de la parole de l'enfant.
Alors, c'est une question de prise en compte de la parole de l'enfant, c'est aussi une question, dans certains...
Il ne faut pas faire de vagues.
...espaces, il ne faut pas faire de vagues, l'institution à protéger, la réputation, surtout quand on est dans un établissement privé, il y a des contingences multiples et variées qui peuvent en découler. Et la société aujourd'hui, elle doit, elle, se lever contre cette forme d'atonie qui caractérise... Non pas le débat public, mais le fonctionnement global et de la justice et de la société et du pays tout entier face à ces drames.
Regardez le périscolaire parisien, c'est aussi qui est apparu. C'est-à-dire que on n'a pas pendant longtemps voulu entendre, voir ce qui se passait.
Et c'est là, aujourd'hui, ce que les Français entendent, c'est un ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui dit qu'il faut rouvrir les dossiers, 70 000 dossiers. Voilà. Donc il faut accélérer l'examen de ces dossiers. Seulement ce matin, un magistrat lui a répondu en direct sur BFM TV.
Quand j'entends qu'on va revoir 70 000 procédures en un mois, là, je crois qu'on atteint le sommet de la démagogie. C'est-à-dire que 70 000 procédures, elles ne sont pas réparties sur 9 000 magistrats. Elles vont être réparties sur 400 parquetiers mineurs. Ça fait 800 heures de travail, si on travaille normalement, en un mois. Un mois travaillé, c'est 140 heures. Les magistrats travaillent plus, disons 250 heures. Mais comment on va faire ? Et ça veut dire qu'on arrête tout le reste. On n'a pas les moyens de le faire. On ne peut pas revoir 70 000 procédures. Ou alors, on les voit, on les lit en 30 secondes. C'est ça qu'on veut ?
Et donc, on risque, en réalité, de faire la même chose, c'est-à-dire de passer à...
On risque de faire les mêmes erreurs.
Donc, c'est de la communication politique seulement ?
Il y a un aspect effet d'annonce, il ne faut pas se leurrer, mais il y a des signaux politiques à apporter à des situations comme celle-ci. Mais après, les gens ne sont pas dupes. Et la société a énormément évolué sur les connaissances des mécanismes institutionnels et judiciaires. Et personne ne peut croire que tout cela sera fait...
D'ici le 14 juillet.
Surtout dans une forme de rationalité nécessaire, pourtant nécessaire.
Maître ?
Je pense qu'il faut dépasser... Je vous parlais tout à l'heure de séisme et le mot est choisi. Je crois que beaucoup a été fait en matière de lutte contre les violences sexuelles, sexistes, qui concernent les enfants. Ce qui n'a pas encore été fait, c'est quand même de coordonner tous les dispositifs qui existent. Des réformes, il y en a régulièrement. La procédure pénale, la matière pénale, c'est ce qui impulse le plus de réformes en réalité.
Des lois, il y en a tout le temps.
Il y en a tout le temps. Je crois que le moment est clairement venu de réfléchir de manière structurelle à la lutte contre ces violences-là. C'est-à-dire que je crois qu'on n'a plus besoin d'une strate sur une autre strate.
Donc pas de nouvelles lois. Mais organisons mieux les choses.
Ben, les organiser de manière structurelle, c'est-à-dire réfléchissons à ce parquet national de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Mon confrère l'indiquait à l'instant, nous avons un parquet national pour les affaires financières, économiques et politiques.
Qui va assez vite d'ailleurs en général.
Ben, qui va relativement vite.
L'entourage de Gérald Darmanin, on l'a interrogé à ce sujet-là, il juge que c'est pas forcément la meilleure des solutions, parce qu'il dit le parquet national, par exemple pour le terrorisme et autres, on remonte tout au niveau national, effectivement. Or, dans ces cas-là, au contraire, ce qu'il faut, c'est de l'ultra-proximité. Et que donc, finalement, faire un parquet national, c'est une fausse bonne idée dans le cas des violences contre les femmes et les enfants.
C'est l'objection qui est souvent faite. L'objection qui est faite à cette proposition consiste à dire que ces violences-là relèvent d'un contentieux de masse. Et précisément, effectivement, c'est un contentieux de masse et de proximité. Mais je considère que précisément, parce que ce contentieux est massif, il a besoin d'une coordination, d'une supervision. On ne peut plus accepter qu'une plainte soit traitée de telle manière dans telle région et différemment dans une autre.
Est-ce que ce serait mieux géré depuis Paris que depuis les départements et les régions ? Ou au contraire, ça éloignerait les victimes de la justice.
La question est essentielle. Hein. Vous avez raison, ça interroge sur l'organisation. L'Espagne, alors il ne s'agit pas de calquer un modèle sur un autre. Comparaison n'est pas raison, bien évidemment. Pour autant, c'est de nature quand même à nous interroger lorsqu'on sait qu'un pays comme l'Espagne, depuis 20 ans, ne fait pas qu'expérimenter à ce parquet national. Ce que je veux
avec des
dire,
résultats.
Avec des résultats très clairs. Vous avez un tiers de fémicides en moins quand même. Quand même.
Il y a eu 5 milliards qui ont été alloués aussi.
En 20 ans, vous avez 16 euros par personne pour cette lutte versus 5 en France. Voilà. Donc, j'entends cette objection qui est souvent faite. Lorsque je parle de parquet national, ce n'est pas un guichet unique à Paris qui aurait vocation, bien évidemment,
à remonter
tous les dossiers de France. Bien évidemment, ce n'est pas envisageable. En revanche, un parquet de pilotage qui s'appuie sur des relais territoriaux. Réfléchissons-y. On ne peut plus se permettre de colmater des brèches.
Il faudra embaucher des procureurs en plus, j'imagine.
Ça nécessite effectivement du monde, des moyens, mais à la hauteur et à la mesure de ce contentieux.
En même temps, soyons pas dupes, parce que là, il y a une élection présidentielle qui va arriver.
Tout le monde fait des propositions.
Il va pas se passer grand-chose. Et Gérald Darmanin, qui est un candidat potentiel...
Ce matin, il a dit « je ne suis pas candidat à cette élection présidentielle ». Il essaye quand même de se démarquer un peu
se donner
des
candidats le bon rôle aussi, quoi.
À l'élection présidentielle. Vous avez vu le parquet national dont vous parlez ici même hier midi, Dominique de Villepin, effectivement, l'a aussi proposé. Bruno Retailleau veut la mise en place, effectivement, d'une... cours disciplinaire pour les magistrats au sein de laquelle il y aurait des Français élus qui pourraient eux aussi prendre des sanctions contre les magistrats aux côtés de personnalités et de personnes qualifiées dans le secteur de la justice. On a vu que ce matin, le ministre de la Justice a essayé de dire ça relève du débat présidentiel, très bien. Moi, mon problème, c'est de régler ce qui n'a pas fonctionné dans le cadre de l'affaire Liana. Parce que là, on parle d'une question systémique. Gérald Darmanin, dans sa conférence de presse, laisse la question ouverte. Il dit tout... L'enquête devra montrer si c'est oui ou non une défaillance systémique ou si c'est une défaillance ponctuelle avec des sanctions qui seront au niveau local. Pour vous, ça fait aucun doute, c'est pas ponctuel, c'est systémique.
Mais il y a quand même des procureurs, peut-être des magistrats qu'il faudra sanctionner. Faut pas hésiter à le faire.
Alors, deux questions. Je peux pas vous dire sans aucun doute puisque une enquête une enquête est en cours sur ce point. Donc c'est pas moi aujourd'hui qui vais venir vous apporter les réponses à cette enquête. Selon toute vraisemblance, il y a eu des défaillances. Mais ce que je viens de dire, et c'est quand même important, cette défaillance a une conséquence dramatique, puisque celui qui a été laissé dans la nature, vraisemblablement, peut-être, était par ailleurs un assassin. Mais au quotidien, vous déposez plainte en tant qu'avocat, mais un an après, la partie civile, la plaignante ou le plaignant que vous défendez n'a pas été entendu. Le mis en cause ne l'a pas été non plus. Je vous dis pas que c'est tous les jours, mais je vous dis que c'est quand même plus que récurrent. Donc, on peut pointer du doigt, et par définition, on est tous happés par cette situation, mais c'est quand même notre quotidien, donc... Ça relève du structurel.
Alors, on a vu des images de ce qui se passe place Vendôme. C'est un rassemblement qui devait se dérouler devant les fenêtres du bureau du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Finalement, ce rassemblement a été interdit par la préfecture, déplacé en fait sur l'île de la Cité devant l'ancien palais de justice de Paris. Mais certains manifestants sont restés sur place pour manifester leur mécontentement, leur colère. Et on voit bien que Gérald Darmanin, Guillaume Daret, est quand même au centre de toutes les attentions. Certains demandent sa démission.
Lui,
pour l'instant, parce qu'il, il l'a écarté.
Plus que pour l'instant, il l'écarte effectivement en jugeant, je cite, que cette défaillance, ça ne tient pas aux consignes qu'il a données. Lui juge qu'il a donné les consignes qu'il fallait. La fameuse circulaire, la priorisation qu'il aurait souhaité pour les violences faites aux femmes et aux enfants, il juge effectivement qu'il a fait le travail, qu'il est allé s'excuser et que donc pour lui, il n'est pas question de démissionner. Vous l'entendrez répondre aux Français. Ce sera ce soir avec Maxime Switek.
Nous sommes avec l'actrice et réalisatrice Sarah Forestier qui est en direct justement de la place Vendôme. Elle est Sarah Forestier, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Pardon, vous n'êtes pas place Vendôme, vous êtes à Lyon.
Non, je suis en route pour la manifestation à Lyon, oui.
Voilà, la manifestation à Lyon devant le palais de justice. Ça vous choque qu'on ait empêché la tenue de la manifestation en place Vendôme ?
Oui, mais ce qui me choque plus, si vous voulez, c'est que le gouvernement arrive toujours après la guerre, alors qu'on attend justement que le gouvernement fasse la guerre à la pédocriminalité. Ce qui se passe avec Liana, c'est que juste là, toute la France voit, vraiment, on voit dans notre face ce que les associations féministes disent depuis tellement d'années, c'est qu'il y a des pédocriminels qui sont laissés dans la nature. Il y a un vrai problème, mais on pourrait être autant choqué de l'affaire Le Squarneck avec un chirurgien qui regarde des images pédopornographiques. C'est-à-dire que les pédocriminels regardent des images pédopornographiques et on devrait les arrêter avant qu'ils passent à l'acte. Donc quand ils regardent des images pédopornographiques, la plupart du temps, ils ont que du sursis. Donc c'est ce qui s'est passé avec Le Squarneck. L'assassin de Liana, il aurait dû être mis en détention provisoire. Mais quand ils regardent des images pédopornographiques, ces pédocriminels, ils ne prennent que du sursis. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'État français ne considère pas que ces hommes sont des dangers ambulants et ils passent à l'acte. Donc il faudrait les mettre sous bracelet électronique. L'assassin de Liana aurait dû être mis en détention provisoire, mais ça veut dire que l'État, ça veut dire que les institutions doivent considérer ces hommes comme des dangers ambulants. Il y a 50% des hommes qui regardent des images pédopornographiques qui passent à l'acte. Qu'est-ce qui va se passer dans ce pays ? On va continuer de chialer quand il y a des gosses qui se font violer ? Ou est-ce qu'on décide d'empêcher les pédocriminels de passer à l'acte ? Et donc, si vous voulez, moi, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je travaille avec des associations féministes et elle propose une loi intégrale. Il y en a marre des rafistolages. Vous voyez, je vous entendais tout à l'heure en plateau.
Que dit cette loi ?
En fait, la loi intégrale, elle englobe tout. Par exemple, pour les pédocriminels, il y a de la prévention, de la sanction, la réparation. Et notamment, tout ce qui a à voir avec les... En fait, il y a un nombre de policiers qui est très peu nombreux. Il y a 100 personnes en France qui s'occupent de la cybercriminalité, les pédocriminels en ligne, mais il y a 700 signalements par jour. Donc en fait, on aurait besoin de beaucoup plus de moyens. Quoi qu'en dise Monsieur Macron, 100 personnes en France pour traquer les pédocriminels, c'est pas assez. Et pourquoi on a besoin de traquer les pédocriminels ? Parce que nous, les Français et les Françaises, on veut que le gouvernement arrête les pédocriminels avant qu'ils passent à l'acte. C'est tellement malsain de chialer et de pleurer après que ces enfants aient été violés, après qu'ils soient morts. Regardez, en fait, on a l'impression que ce gouvernement fait du rafistolage à chaque fois qu'il y a un scandale.
Mais comment vous expliquez que ça ne soit pas une priorité, justement, face aux pédocriminels ? On a eu encore le scandale du périscolaire à Paris.
En fait, voilà, on a eu le périscolaire, on a eu le scandale Betaram, et puis à chaque fois, vous avez des membres du gouvernement qui viennent dans des micros et qui disent « Ah ben, on va faire une liste noire à l'éducation nationale pour le périscolaire ». Mais on n'en a rien à foutre de vos listes noires. On n'en a rien à foutre de vos rafistolages. Il y a une loi qui a été préparée depuis tellement d'années qui s'appelle la loi intégrale. J'invite tous vos téléspectateurs à regarder sur internet loiintégrale.fr. Il y a absolument tout. Il y a pour les pédocriminels, pour protéger les enfants, pour protéger les femmes par rapport aux violences conjugales, par rapport aux violences aussi dans notre travail. Parce que il y a aussi une chose qu'il faut... Si vous voulez, ce qui ne va pas, c'est dans l'attitude du gouvernement, c'est de réagir uniquement au cas par cas. Et même, je vais aller un peu plus loin. Quand vous avez l'affaire Bruel, quand vous avez l'affaire Depardieu, c'est traité MeToo musique, MeToo cinéma. On a l'impression que c'est que par secteur d'activité et que c'est pas pensé de manière systémique. Mais la réalité, c'est que par exemple, dans ces affaires-là, c'est des femmes qui ont été violées sur leur lieu de travail ou agressées sexuellement sur leur lieu de travail. Et donc, ça relève du ministère du Travail également. Et dans cette loi intégrale, ça parle de ça. D'accord. Ça dit que les employeurs doivent virer les agresseurs. Patrick Bruel aurait dû être viré de festival beaucoup plus tôt. Gérard Depardieu aurait dû être viré de tournage beaucoup plus tôt. Et voyez, moi, j'ai participé à Me Too Cinéma, mais la réalité, c'est que si les employeurs, si les producteurs de films avaient viré les agresseurs, comme c'est préconisé dans le Code du travail, parce qu'il y a des sanctions disciplinaires et qui peuvent virer les agresseurs, on ne serait pas là. Et donc, tout ça, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, est contenu dans cette loi intégrale.
Mais
et on a besoin d'autre chose que d'émotion. En fait, mais je vais vous dire très sincèrement, il n'y a aucune raison de ne pas passer cette loi.
Il faut agir.
C'est que tous les députés, l'urgence absolue, là, avant la fin du quinquennat, c'est de passer cette loi intégrale. Moi, je vous le dis sincèrement, je ne veux plus rien entendre d'autre.
Merci, merci Sarah Forestier, merci une saine colère, comme on dit, de l'actrice et réalisatrice Sarah Forestier qui partait à la manifestation devant le palais de justice à Lyon avec ces images-là de la place Vendôme où finalement un arrêté préfectoral a empêché le rassemblement et ce sont quelques-unes des manifestantes qui sont quand même restées.